بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، aujourd'hui un épisode de vie qui m'a beaucoup ému lorsque je l'ai lu. Parce qu'il parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il est vrai qu'on aime parler des sahaba radiyallahu anhum, on aime parler des tabi'in, tabi'at tabi'in, les grands savants à travers l'histoire. Mais rien n'égale la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plus précisément, on va parler d'un sahabi et de sa réaction et de son amour, lui ainsi que sa femme, envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sahabi, c'est Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, lui ainsi que son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam part de la Mecque, prend un accord et fait un accord avec les Médinois, envoie avant cela notamment Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu pour faire la da'wa, et il arrive dans une Médine qui est assez compliquée à gérer, c'est-à-dire une partie des musulmans qui n'est pas du tout la majorité, une partie des Médinois, qui n'est pas la majorité, se convertit à l'islam. Mais il y a d'autres tribus, et notamment les tribus juives qui sont majoritaires à Médine. Et c'est une chose que les gens ne savent pas très souvent. C'est-à-dire que la majorité des habitants de Médine, si on prend Médine et sa circonférence, étaient en fait finalement des gens de confession juive. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine dans un contexte géopolitique compliqué. Alors il fait la chose suivante. Il ne vient pas directement à Médine, car rentrer directement à Médine avant que tous les chefs de tribus et les notables lui aient porté allégeance signifierait venir comme étant un homme qui réclame cette gouvernance. Alors il s'arrête à Quba et il y fait construire la mosquée, un premier centre. Et il y reste plusieurs semaines. Très souvent, les gens ont l'impression qu'il est passé à Quba très rapidement. Mais ça a été le temps de construire une mosquée. Certains disent même plusieurs mois. Et chaque chef vient, un à un, porter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsqu'il arrive à Médine, il rentre à Médine comme étant le chef incontesté des musulmans. Et toutes les tribus lui ont porté allégeance. Allahu Akbar, un fin stratège, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas étonnant. L'envoyé d'Allah Azza wa Jal, la meilleure des créatures, c'est tout à fait normal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine, se pose une problématique. Les Arabes sont peut-être le peuple le plus généreux et le plus accueillant, d'accord ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est gêné d'une chose. Chez qui va-t-il aller ? Chez qui va-t-il aller ? Chacun tire la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Ya Rasulallah, viens chez moi, viens chez moi. » Donc il rentre à Médine, il est sur sa chamelle. Et il dit « Écoutez, ma chamelle va choisir là où je vais habiter. » Chacun essaye de ramener la chamelle avec des petits stratagèmes, des dattes dans la main. Il essaie de la tirer. « Viens chez moi, ya Rasulallah !» Ils veulent, imaginez-vous, l'honneur de l'avoir chez soi. La chamelle part, revient, va vers certaines maisons, repart, revient. Et elle finit par s'arrêter devant la maison de Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. Imaginez-vous la joie. Sa maison est composée d'un rez-de-chaussée et d'un étage. Il décide donc, bien évidemment, de réserver l'étage au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui laisser son intimité. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit les choses d'un autre œil et il ne veut pas les déranger. Car bien évidemment, tout le monde va venir le voir à longueur de journée et il va recevoir tout un tas de personnes. Donc il se dit tout simplement sallallahu alayhi wa sallam que c'est plus pratique qu'il soit au rez-de-chaussée afin de recevoir les gens. Et pendant ce temps-là, Abu Ayyub al-Ansari rahimahullah et son épouse ont une intimité au-dessus. Mais c'était sans compter sur, subhanallah, la piété de Abu Ayyub radiyallahu anhu et de son épouse. La première nuit arrive, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se couche, lui et son épouse Abu Ayyub se couchent, et là il commence à réfléchir. On est au-dessus du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et si la révélation lui est donnée pendant la nuit, il y a nous entre la révélation et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on ne va pas l'empêcher ? Ils ont commencé à stresser, subhanallah. Donc lui et sa femme, ils ont fait quoi? Ils sont partis sur le côté du mur et ils ont dormi collés au mur sur le côté, dans justement l'espoir de ne pas poser problème vis-à-vis de la révélation. Et ils n'ont pas dormi de la nuit. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les voit leur mine un petit peu déconfite, les questionne et lui explique tout simplement: Ya Rasulallah, on a eu peur d'être une barrière entre toi et le wahy. Vous savez, ça me fait sourire parce qu'en fait, c'est révélateur d'une piété et d'une crainte révérentielle qui est extraordinaire. Vous voyez, c'est ajib. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. Et donc, première nuit assez dévastatrice au niveau de la fatigue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur explique que non, ce ne sera pas une interférence entre lui et la révélation, qu'il n'y a aucun problème et qu'ils peuvent continuer à rester ainsi et qu'il n'y aura aucun problème bi-idhni rabbil alamin. Une autre anecdote arrive. Lui et son épouse donc dorment au-dessus. Le sol est un sol, vous savez, il ne faut pas se dire en fait, quand on s'imagine des maisons, on s'imagine toujours un petit peu les maisons à l'européenne ou quoi. Non, là-bas une maison à étage, ça signifie des poutres, des planches. Et entre ces planches, si on laisse tomber par exemple quelque chose de liquide, eh bien ça va passer à travers. Et c'est ce qui s'est passé. C'était en hiver, donc il faisait assez froid, à savoir qu'à Médine il fait assez froid en hiver. Et lui et son épouse, sans faire exprès, ont renversé une jarre qui était pleine d'eau. Elle s'est renversée et de peur que l'eau n'atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pris le tissu qu'ils avaient à disposition. Et le seul tissu qu'ils avaient à disposition, c'était un morceau de velours en fait sur lequel ils dormaient, qui faisait office de matelas. Donc ils l'ont pris, ils l'ont mis dessus pour éponger tout ça, pour éviter qu'une seule goutte n'atteigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont réussi à éponger tout ça, mais sur quoi vont-ils dormir? Et bien du coup, ils ont dormi sur le sol, dans le froid, dans la gêne, etc. Lorsque le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus dans cet état, il a dit « Khair inshallah » et il est monté à l'étage. Il est resté chez eux durant 6 à 7 mois. Vous voyez, pareil, on a tous vu le film « Risala », le message, et on a l'impression que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et que la mosquée s'est construite extrêmement rapidement. Non, c'est 6 à 7 mois. Donc pendant ces 6 à 7 mois, il renforce aussi son rôle de dirigeant et il continue à recevoir des notables en fait, des villes aux alentours qui viennent lui porter allégeance, alhamdoulilah. Donc le temps que la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam soit construite afin qu'il finisse par y vivre. Ici on a un épisode de vie qui rappelle un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est « قال النبي sallallahu alayhi wa sallam لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire dans le sens du hadith: vous ne serez de véritables croyants que lorsque vous m'aimerez plus que vos parents, plus que vos enfants, et même plus que vous-même. C'est ça qui faisait d'eux des hommes extraordinaires. Aujourd'hui, les gens pensent qu'avec simplement 3 versets coraniques mémorisés, 5 hadiths qu'on a appris, et avoir lu quelques petites choses sur des sites internet, on est vraiment attaché à la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La question à se poser, c'est pourquoi était-il ainsi et pourquoi nous n'arrivons pas à être comme eux? La réponse est très simple. L'amour que l'on porte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'une émanation de l'amour que l'on porte pour Allah. Ainsi, on aime Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa qualité de prophète d'Allah. Et tout repose là-dessus. Nas'alallah azza wa jal, on demande Allah azza wa jal qu'il fasse de nous des amoureux d'Allah et donc des amoureux du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Notre action sera donc une action magnifique et sera une action qui peut changer nos vies. Vraiment, elle est très simple. L'action sera de prendre un livre sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de le lire. De le lire. Pour s'imprégner. Pour s'imprégner de cette vie. S'imprégner de l'homme qu'il était, s'imprégner du prophète qu'il était sallallahu alayhi wa sallam afin de l'aimer. Car tout comme plus on connaît Allah, plus on l'aime, et bien plus on connaîtra le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et plus on l'aimera. Allah azza wa jal nous dit dans le Coran: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Dis-leur, dis, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et Allah Azza wa Jal ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire cette phrase. Et le « moi » ici dans cette phrase revient au prophète. Si vraiment vous aimez Allah, alors suivez le prophète d'Allah Azza wa Jal. Quel sera le résultat? Eh bien Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Cela signifie que aimer le prophète, nous allons à partir de cette action, récolter l'amour d'Allah Azza wa Jal et récolter son pardon. Demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des hommes et des femmes amoureux de son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah nous pardonne nos péchés. Alors, mes frères et mes sœurs, cette histoire de Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu ainsi que son épouse ne doit pas rester une histoire, mais doit devenir une partie de notre existence. Alors mon frère, ma sœur, fais de cette histoire ta réalité, inshallah. Wa barakallahu fikum.